Ça y est, tu enregistres là?
Bonjour, c'est l'heure du documentaire et aujourd'hui nous la consacrons après Dina Vierny, Jacqueline Veuve et Nina Simone à la cinéaste Dominique Cabrera. Influencée par le documentariste canadien Pierre Perrault, lui-même issu de la radio, qui disait « Ce qui m'intéresse, c'est de faire jaillir une parole vécue ». Elle prépare la parole des personnages qu'elle va filmer dans un documentaire plusieurs mois avant le tournage. Elle les écoute, prend des notes, les réinterroge quelques temps plus tard, fouillant toujours plus le propos, pour finalement écrire d'un commun accord une partition de ce qui sera dit au moment du tournage. Cette partition, pour la cinéaste, c'est le contrat de confiance qui unit le filmeur et le filmé. Les personnes n'ont pas peur d'être piégées ou de laisser s'échapper des paroles gênantes pour elles, car elles savent ce qu'elles vont dire. Pour Inès Leroux, qui nous a proposé ce documentaire le 21 janvier 2009 pour une collection de Sur les Docs nommée « Passeurs de réel », il s'agit d'aborder ce qu'il faudrait oser nommer la direction d'acteur dans le documentaire.
Dominique Cabrera et ses personnages, passeurs de réel. Guillaume Baldi, Inès Leroux.
Quel confort agréable. Nous oublions que nous sommes dans un HLM. Tous les meubles d'un intérieur douillet y ont trouvé place. Un dernier coup d'œil sur le Val-Fouré qui permettra à de nombreuses familles de vivre confortablement. De vivre une vie meilleure.
C'est au tour de la personne filmée, que certains appellent témoin, intervenant ou invité, et que d'autres appellent personnage ou comédien, de cette figure documentaire qui n'a pas de véritable identité et que l'on ne sait jamais vraiment bien désigner, que nous interrogerons le travail de Dominique Cabrera. Cela, afin de comprendre comment peut s'élaborer un travail de construction du personnage en documentaire et quels enjeux éthiques se nouent dans la relation filmeur-filmé.
Puis là, c'était notre chambre, à la salle de séjour. Alors, ça fait... Moi, je suis un peu... Permettez, arrêtez, monsieur.
Marilyn Canto, vous êtes actrice, et je crois que vous avez joué dans tous les films de fiction de Dominique Cabrera.
Oui, c'est vrai, j'ai joué dans tous les films de fiction de Dominique Cabrera.
L'autre côté de la mer, Nadia les hippopotames, Le lait de la tendresse humaine, Folle embellie. Est-ce que vous avez vu ces films documentaires ?
J'ai vu Une poste à la Courneuve, c'est le seul film que j'ai vu.
Je voulais vous montrer un extrait de Une poste à la Courneuve, justement.
Qu'est-ce que t'as ? Tu veux prendre le manche du balai ? Je vais te le donner. Hé, hey, il y en a une, elle est venue avec quoi, là, hier, dans la salle, là ? Elle n'a qu'une bouteille d'eau, avec une bouteille d'encre ? Bon, là encore, ça va aujourd'hui. Il n'y a pas de propre de chien. Vous avez de la chance. Ça, il y a des jours... Oh, il est déjà là, celui-là ? Oh, là, 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 là. Il va venir voir si sont les amis arrivés.
C'est génial.
Oh, là... Là, celui-là, c'est le folklore, là. Tout le temps qu'il n'a pas son mandat ou son machin, on va le voir tous les jours. Puis une fois qu'ils ont touché leur argent, c'est fini. Vous les voyez plus. Ah, demain, vous allez voir, ça va être le folklore.
C'est pour ça, cavalier aussi. Les portraits de cavaliers.
Ils ont... Comment on dit ? À 7h30, ils sont là. 7h30, 8h moins le quart. Alors, à 8h, c'est noir dehors, hein, je vous préviens. Après, à l'ouverture, il faut les faire reculer pour pouvoir ouvrir. Pour pouvoir ouvrir la grille. Parce que sinon, ils se tiennent à la grille. Ils ont l'impression que la porte va s'en aller.
C'est-à-dire qu'elle est intarissable. Elle est... On peut la laisser. Elle
après,
parle.
C'est fini. Après,
ça reste
c'est
pas.
La bagarre, c'est la chaîne. Alors, ils n'ont qu'une chose, c'est qu'une hâte, c'est toucher leur argent et de râler. Et à la rigueur. D'insulter de guichetier, si c'est nécessaire pour eux. Il y a des fois, il n'y a même pas besoin de l'insulter, le pauvre, il n'y est pour rien si les allocations de sa famille ne sont pas virées. Donc, nous, on rigole parce qu'on est forcé de rire, bien sûr. Moi, je me mets à la place de beaucoup de gens. Mon mari, il a failli se retrouver au chômage. fin janvier, on a viré les chauffeurs, on lui a pas demandé son avis, on lui dit voilà le chèque de temps et puis terminé. J'ai déjà un loyer déjà de 2003. J'ai un emprunt qu'il faut que je rembourse tous les mois à 1600 francs plus une chambre à coucher. Avec ça, de prélèvement tous les mois, j'ai 2600, 2700 de prélèvement tous les mois en plus du loyer. Ce que moi je gagne là, c'est parti. Et avec quoi on vit?
Donc en fait, ce qui est très particulier dans cette scène, c'est que là, Dominique Cabrera, qui déjà prépare beaucoup ses documentaires avec les gens qu'elle va filmer, dans cette scène-là, elle a même écrit avec la femme de ménage le texte qu'elle va dire. Elle n'a pas écrit à la lettre près, mais en discutant avec elle, elle lui a donné à peu près l'ordre, voilà, ouais. L'ordre des choses, une sorte de partition.
Là, si c'était dans un film et qu'il fallait faire ça, elle est extraordinaire. Si elle évidemment, elle parle d'elle et c'est sa vie, mais elle est extraordinaire. Elle a des ruptures incroyables. Elle s'arrête, elle regarde la caméra, elle reprend son travail, elle change de rythme tout le temps. Elle est incroyable, elle est très drôle, elle est très vive, elle est très bouleversante. Elle s'arrête pour dire une chose très triste. Non, c'est comme c'est un moment de bravoure presque de jeu, je dirais ça. Rosier, il fait un peu ça comme ça dans ses films avec certains acteurs. Mais quand je vois ça, je pourrais me le passer en boucle et essayer de comprendre pourquoi c'est extraordinaire. Pourquoi ce moment de vie, il est extraordinaire.
Jacques Pamard, vous avez été le chef opérateur de Dominique Cabrera sur Chronique d'une banlieue ordinaire et sur Réjeanne.
Oui.
Réjeanne dans la tour.
J'avais travaillé avec pas mal de réalisateurs avant de travailler avec Dominique. Mais je crois que j'ai jamais senti avec les autres réalisateurs qu'il était à ce point-là urgent et important de faire un film. J'avais l'impression que vraiment Dominique mettait tout ce qu'elle avait envie de mettre de sa personne dans ce film, et on le sentait à des détails d'approche des gens. Il fallait que nous aussi, on soit totalement déférents, respectueux des invités qui arrivaient sur le plateau. C'était quelquefois très, très difficile et dur, et j'allais même dire pénible, parce que on se disait, bon, elle en fait un petit peu trop, tout simplement. Parce qu'il fallait vraiment. Je crois que c'est un tournage où on n'a jamais rigolé sur ce film. On n'avait quasiment pas le droit de se marrer. Voilà, tout simplement. Bon, ceci dit, les réalisateurs en général n'aiment pas qu'on rigole sur un plateau parce qu'ils sont tous un peu parano, ils ont tous l'impression qu'on se fout de leur gueule s'ils ne sont pas au courant de la blague en question. Mais avec Dominique, j'ai pas de souvenir qu'on ait vraiment rigolé. Enfin, c'est pas...
Pourtant, j'ai récupéré des photos de tournage et vous êtes tous en train de rigoler.
Ah, ah, ah.
Non, j'ai celle-ci. On voit Dominique qui sourit beaucoup.
Oui, mais regardez mon assistant, comme il est tendu comme c'est pas possible. Ça, c'est la stagiaire. Bon, elle a l'air de dormir, en fait, elle est... Et dans un état
de stress
absolu.
Et alors sur le tournage, ce qui est très particulier pour un documentaire, c'est qu'on vous voit, vous êtes avec une caméra 16 mm, donc en pellicule.
Oui.
Vous avez un assistant caméra.
Oui.
Il y a Dominique Cabrera qui réalise.
Oui.
Il y a un assistant réalisateur.
Non, elle était stagiaire en fait.
Il y a une stagiaire, un assistant réalisateur.
Il y avait deux stagiaires.
Deux stagiaires,
oui.
Une script.
Et il y avait deux opérateurs, enfin un opérateur et son assistant, oui, et puis il y avait un ingénieur du son. Et il y a eu aussi, pendant une partie du tournage, il y a un perchman.
Donc ça fait 10 personnes pour un documentaire.
Voilà, oui, c'est énorme. Voilà. Puis là, je ne sais pas ce qu'il y en a eu, il y a deux caméras. Il y en a une ici, il y en a une là.
Oui, il y a deux caméras en plus.
Oui, mais là, c'était une caméra qui filmait à l'accéléré, celle-ci.
Le tournage était très préparé, vous aviez numéroté par séquence que vous alliez tourner.
Tous les jours, on avait un plan de travail. Effectivement, l'assistant faisait tous les jours un plan de travail. Et le matin, on avait ça dans nos chambres respectives. On avait un plan de travail qui était glissé sous la porte. Et sur ce plan de travail, je vois, effectivement, il y a les horaires de marquer. Il y a les séquences de prévues. Il y a les lieux, évidemment. 14e étage, 11e. Et il y a le numéro de séquence, etc. Et donc, c'était prévu comme un tournage de fiction. Parce que... Moi, j'ai fait beaucoup de documentaires dans ma vie. Je n'ai jamais eu de plan de travail pour un documentaire. Quand on tourne un documentaire, on a demain rendez-vous à 8h30 ou à 9h, à tel endroit, point. Et c'est avec ça, après, on se débrouille, quoi. Mais Dominique voulait vraiment que ce soit... Enfin, c'est... De toute façon, entre la fiction et le documentaire, quelquefois, la frontière elle est très limite. Là, elle est très, très, très limite, je trouve.
Moi, j'ai fait toutes les sortes de cuisines, arabe, français, espagnol. Toutes les recettes qu'il me donne, je le fais. J'ai essayé toutes les cuisines, moi. Sauf, il y en a des choses qu'on ne peut pas les faire. Dans la religion, on n'a pas le droit, mais sinon, je fais tout. Bah, j'aime bien faire les gâteaux. Ça, c'est moi.
Je me souviens qu'on venait jouer une sorte de grand couloir. On faisait du vélo. Du vélo, on apprenait à faire du patin à roulettes. On jouait au ballon.
Denis Cabrera travaillait avec un cadreur. Et je me demandais comment elle vous dirigeait, parce que vous dissociez... La caméra se dissocie souvent du son. Là, on entend une femme qui parle de sa cuisine, de ses recettes. Il y a un mouvement caméra très beau, c'est qu'on se dirige vers sa petite fille qui, elle, est allée regarder par la fenêtre la ville. Et on entend la femme continuer à parler de sa cuisine et on est sur cette petite fille de dos.
J'ai pas vraiment de souvenirs. Je sais que c'était un peu ma tendance à moi de faire ça dans ma vie d'opérateur.
De regarder à côté.
Ouais, de regarder à côté ou de... Et je pense que Dominique le savait aussi, ça, que je faisais ça. Et je pense qu'elle... parce que je me vois pas du tout... c'est un peu lointain, quand même. Je vois pas Dominique me faire des signes, me taper sur l'épaule pour me faire comprendre qu'il fallait aller regarder à côté. Parce qu'en général, quand on fait ça, ça marche jamais, de toute façon. Parce que le temps que le réalisateur voit la chose qui l'intéresse, la formalise et l'indique à l'opérateur, en général, c'est trop tard, à ce moment-là. Donc... Et la formule traditionnelle, dans ce cas-là, c'est « Ah, c'est trop tard ». J'ai pas de souvenir de Dominique me donnant des indications comme ça, mais par contre, moi, c'est des choses... C'est assez normal, cette femme que l'on voit beaucoup, quand même, elle dit des choses relativement simples, et je pense qu'on a le droit, dans la vie, d'aller regarder un peu ailleurs, quoi. Bon, alors, ça aurait pu être... Non, je crois que c'est moi qui ai décidé de faire ça tout seul. Je suis presque sûr, oui. Enfin, Dominique, je pense qu'au départ, elle voulait absolument tout contrôler. Et je pense que là, la collaboration qu'on a eue assez étroite toutes les deux lui a donné quelque chose. Donc, la possibilité, par exemple, au niveau du montage, de monter des petites filles derrière une petite fille qu'on avait été regarder volontairement, quoi. Donc là, la volonté que moi j'ai d'aller filmer la petite fille qui regarde par la fenêtre, elle est exaltée par le fait qu'après, elle a la volonté de mettre ces trois petites filles en haut de l'escalier.
Et vous utilisez des lumières, vous avez entièrement rééclairé les scènes?
En fait, on n'éclairait que les scènes sans comédien, enfin sans témoin. Les scènes avec témoin n'étaient pas éclairées.
Vous les appelez comment? Comédiens, témoins?
Je ne sais pas comment les appeler, pas des témoins, des gens, quoi.
Parce qu'ils expriment des choses très très fortes, ils vont au fond de leurs émotions. Qu'est-ce qui a pu permettre d'amener les gens à exprimer ça?
Donc, je crois la confiance qu'ils avaient en Dominique. Mais encore une fois, je ne sais pas si elle a beaucoup travaillé, si elle a beaucoup rencontré ses témoins, ses personnages avant le film. Mais c'était évident qu'ils avaient entièrement confiance en elle. Mais je pense que Dominique, de toute façon, c'est quelqu'un en qui on a immédiatement confiance, qu'on peut aussi rejeter immédiatement parce qu'elle peut être. Elle peut faire peur, tout simplement. Donc on peut très bien s'écarter d'elle. Mais si on l'accepte complètement et on a confiance en elle. C'est quelqu'un d'une droiture absolue. Et les gens le sentaient. Et les gens devaient se dire aussi que, Dominique étant comme ça, l'équipe aussi était comme ça. C'est-à-dire qu'on faisait un bloc soudé, et c'était... Et les gens nous ont livré des choses, quelquefois jusqu'à la limite de la... Bon, c'est le premier, je ne sais plus comment il s'appelait, le premier, celui dans le film qu'on voit en premier.
Jean-Louis
Niveau. Voilà. Qui, effectivement, en revoyant la maison, au bout de 3 minutes, il fond en larmes et il dit arrêtez avec un petit geste de la main. Donc là, on a arrêté et puis on a attendu qu'il se reprenne un petit peu, quoi.
Et ça, c'est. Il y a plusieurs moments, en fait, dans le film où Jean-Louis Niveau demande à couper parce que l'émotion surgit. Comme ça se renouvelle plusieurs fois, est-ce qu'avec Dominique Cabrera, vous aviez prévu quelque chose dans ces moments-là?
En fait, la première fois, je sais que c'est moi qui ai baissé la caméra, qui ai arrêté de tourner en piquant la caméra. Et je crois me souvenir que Dominique n'était pas contente que j'arrête. Mais je crois que Dominique aurait aimé que je tourne en... et en donnant à elle le droit ensuite de couper.
C'est quoi qu'on voit en fait?
Alors ça, c'est Chronique d'une
banlieue ordinaire. Ah oui, oui, oui.
C'est Chronique d'une banlieue ordinaire.
D'accord.
Et c'est un passage avec Jean-Louis Niveau.
Mais c'est marrant parce qu'en fait, souvent, elle chronique d'une banlieue ordinaire. Au fond, c'est ça qu'elle aime bien, j'ai l'impression, quand je vois ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle filmerait des vies ordinaires, mais qu'elle rendrait extraordinaires. C'est ça, en fait. Hein. C'est pour ça que c'est touchant, vraiment. C'est des héros, tous ces gens. Non
ouais. Il revient dans son appartement.
Ouais. Et il cherche des dessins de ses filles sous la tapisserie.
On
ne
trouve pas les dessins. Et
là,
on peut pas retrouver
maintenant. C'est touchant.
Ah, oh, pourquoi? Eh bien, ça fait tout drôle parce que ça fait rajeunir de 20 ans. C'est une autre époque de la vie. C'est l'époque où j'avais pas les idées que... Enfin, j'avais... Je pense pas que j'ai changé beaucoup d'idées, mais où je m'étais pas rendu compte... Je ne m'étais pas rendu compte de certaines choses, et c'est l'époque où je votais à droite, par exemple, et c'est l'époque où j'étais tout seul dans mon camion, où je m'occupais pas des autres, je m'occupais de la vie de personne, j'avais mon camion, point, mon travail et ma famille, c'était tout. Et par ici, ça représente beaucoup de choses, parce que c'est l'époque où j'ai commencé à me rendre compte, justement, où j'ai arrêté de faire la route, et c'est là où je me suis rendu compte que la vie pouvait pas continuer comme ça, que j'étais pas tout seul avec ma famille, mais qu'il y avait plein d'autres choses, et que, bon, c'est l'époque où j'ai commencé à voter à gauche, hein, je dis franchement, où j'ai commencé à faire du syndicalisme, ça comptait beaucoup, beaucoup pour moi. C'était une époque fantastique dans ma vie. C'est difficile, difficile à raconter pour arrêter.
Il est touchant, c'est incroyable cet homme. Oh la vache. C'est lui alors, Jean-Louis.
Ouais.
Oh
là là. Des passages comme ça, je trouve ça très fort en présence. Et je me demande comment on en arrive à faire qu'une personne puisse aller si profond en elle et face à la caméra.
C'est sûr que c'est comment on est regardé qui fait qu'on arrive à être plus simplement soi-même ou être avec soi, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que Dominique, elle arrive à avoir ce regard à la fois incroyablement bienveillant et attentif sur les gens, ça se voit, sinon je pense qu'il ne se livrerait pas autant. Il est magnifique cet extrait, puis l'homme, parce que voilà, tout d'un coup, la vérité, l'émotion jaillit dans le plan sans qu'on s'y attende. Il parle politique et il se met à pleurer, D'un coup, je pense à Ken Loach. Moi, je me souviens de films de Ken Loach où il y a cette espèce de vérité incroyable où, justement, ces héros ordinaires, justement, ces gens qui n'ont rien d'extraordinaire et que Ken Loach fait en sorte que ce soit des gens bouleversants. Ça fait penser à Claude Lanzmann aussi. D'un coup, quand il... Il y a un passage comme ça dans Shoah où le type dit « arrêtez de filmer ».
Mais en fait, elle utilise le même dispositif que Lanzmann, qui est le retour sur les lieux. Et je pense que réemmener quelqu'un sur un lieu du souvenir, ça engendre des choses très fortes.
Bien sûr. Puis de toute façon, le procédé comme ça, de parler de soi, tout d'un coup, elle demande à ces gens-là de parler d'eux-mêmes face à une caméra, ça fragilise. C'est ça qui fait aussi que la vérité ou que l'émotion survient, enfin jaillit comme ça. C'est parce que tout d'un coup, on est complètement... Mais c'est pareil pour les acteurs, d'ailleurs. Si on arrive à cet état de fragilité, on n'est plus volontaire, on n'a pas de désir de montrer ou de comment dire, d'émouvoir, mais du coup, on émeut parce que justement, on est dans un état de fragilité et de disponibilité qui fait que ça vient. Mais aussi, c'est le fait que elle laisse place au silence, elle l'interrompt pas, elle le met dans un état sans doute, de fragilité. Et c'est beau.
Il y a l'idée de plan séquence aussi qui est forte.
Ouais, du temps, bien sûr. Elle laisse le temps à ce que ça vienne ou pas, d'ailleurs.
Parce qu'il y a aussi l'idée que le temps que lui vit devant la caméra, c'est exactement le temps que nous, spectateurs, on vit, que l'équipe vit quand elle filme.
Oui, c'est pas monté, donc c'est pas truqué. Oui, oui, bien sûr.
Mais c'est vrai qu'elle utilise aussi le plan séquence en fiction.
Bah oui, parce que c'est ça. Quand il y a un plan séquence, on n'a pas l'impression que l'émotion est fabriquée. Elle est. Elle existe. On la voit se dérouler sous nos yeux, en vrai, en temps réel. Alors ça marche, évidemment. Mais bon, faut faire vachement confiance au cinéma et aux acteurs hein, pour faire ça.
C'est l'époque où j'ai commencé à voter à gauche, hein, je dis franchement, où j'ai commencé à faire du syndicalisme. Ça a été beaucoup, ça comptait beaucoup, beaucoup pour moi. C'était une époque fantastique dans ma vie. C'est difficile, difficile à raconter. Bon, arrêtez. Le problème, c'est que quand j'ai fait du syndicalisme, j'ai failli perdre ma vie. Parce que je me suis fait agresser par des... Dans la grève de 52 jours, je me suis fait agresser par des fascistes. Et j'en porte encore des traces. Hein, j'en porte des traces. On m'a retrouvé, j'étais couvert de sang. Les mecs m'avaient tailladé à coups de cutter et tout ça. Et je suis retourné à l'usine. Et c'est des choses, quand elles vous reviennent, ça vous fait mal au trip. Parce que moi, j'ai eu un 11-43, là, et on m'a dit, si tu continues de défendre les bougnoules, t'auras une balle entre les deux yeux. C'était les petits copains du sac, à l'époque.
Jean-Louis Niveau, vous avez participé au film Chronique d'une banlieue ordinaire, de Dominique Cabrera.
Oui, oui, oui. C'est loin.
C'était il y a 17 ans.
Il y a 17 ans, déjà. C'est loin et en même temps, c'est pas très loin, parce que le temps passe très vite.
Comment vous expliquez qu'il y a cette émotion qui soit née tout d'un coup? Grâce à quoi?
Grâce à rien, ça monte tout seul, ça. C'est une conjoncture de choses. On vous fait parler. Vous êtes dans un lieu qui est historique pour vous, on va dire historique, pour la personne. Ça raconte un tas d'histoires, c'est la chambre de mes filles. Je revois ma petite Nathalie, tiens, tout le temps, qui était haute comme ça. Mes filles, mais... Quand on part en vrille, là, c'est que ça veut dire que c'est la soupape de sécurité qui crache. Parce qu'il y a tout qui arrive, là. Ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, puis ça... Et puis, vous pouvez plus vous arrêter.
Vous revivez les choses.
Oui, mais ça revient, mais une vitesse, très vite.
Et ça, vous auriez jamais pu les revivre si ça avait été juste un entretien assis face à face avec Dominique Cabrera.
Ça n'a pas du tout été pareil. Parce que là, vous vous sentez, comment dire... Vous êtes en train de m'interroger parce que vous me voyez, là. Mais moi, j'ai plein de monde en face de moi, là. Il y a la caméra, il y a la fille qui note, il y a Dominique, il y a toute une équipe devant. Et ça, il faut être du métier pour accepter ça sans broncher. Hein. Quand on n'a jamais fait, c'est presque invivable, c'est à la limite du supportable. Parce que tout remonte, et vous pouvez plus vous retenir, parce que ça s'en va. Je suis sûr que si on allait jusqu'au bout, finirait par tomber dans les pommes. Et vous éprouvez une espèce de satisfaction, c'est un mélange de satisfaction, de honte, de tout ce qu'on veut. C'est tout ça qui arrive en même temps, ça se bouscule là-dedans et puis on craque. Non, là, le film, c'est pas que la tour, là. Là, c'est toute la vie qui remonte.
Mais ce qui est étonnant, c'est que vous avez une émotion telle qu'on dirait que c'est la première fois que vous retournez dans votre appartement. Ah, or, oui, quand j'en parle avec vous, j'apprends que vous y êtes retourné avec Dominique Cabrera pour préparer le film.
On y retournait, mais on faisait pas tout ça. On faisait juste des entrées, on n'a pas vraiment visité les pièces ni rien. Elle m'a demandé où c'était, mais elle m'a interdit d'ailleurs de faire des choses dans l'appart. Elle voulait que ce soit pris sur le vif, parce qu'il n'y avait pas les caméras quand on y est allé. Donc c'est pas du tout la même impression.
Et en même temps, vous êtes déstabilisé par tout ce monde, et en même temps, vous trouvez vos mots. Vos souvenirs vous reviennent, et vous trouvez des phrases pour les dire.
Parce que vous êtes obligé. Vous avez un contrat moral, vous n'avez pas un contrat écrit, mais vous avez un contrat moral avec la dame qui est en face de vous, et elle veut prendre ses mots, et tout ce qui sort de votre bouche et de votre attitude. Donc vous êtes obligé d'avoir une espèce de contenance, ça vous tombe, si vous n'avez pas... Enfin, je sais pas, mais je peux pas vous expliquer mieux, hein, ça, franchement... Ça se commande pas, c'est des choses qui arrivent naturellement.
Et qu'est-ce que ça vous a fait qu'elle laisse le moment où vous demandiez à couper et vous commencez à pleurer dans le film?
Ça m'a pas plu. Je voulais qu'elle le coupe, mais elle a pas voulu. Après, de toute façon, je suis allé voir les rushs à Arcueil.
Elle a été très honnête dans cela qu'elle a fait voir avant ce qu'elle avait tourné. Elle a respecté, en gros, j'en ai pas voulu de ça, parce que, comme je vous expliquais, c'était une artiste. Je peux pas lui dire, vous avez tourné avec moi, j'ai eu des attitudes, et aujourd'hui, je veux pas que vous me passiez dans votre truc. À ce moment-là, il fallait pas que je vienne.
Et au final, c'est une expérience positive ou quand même douloureuse de devenir un personnage dans un film?
C'est douloureux, mais positif à la fin, parce que moi, je filmais par militantisme. Donc c'était, je me disais, tout ce qui va sortir là, ça va servir à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va le voir, ça va peut-être progresser des choses, donner des idées. On a toujours de l'espoir quand on croit à un idéal, que ce soit n'importe lequel. On se dit, si on fait quelque chose pour ça, on se dit que ça va servir. Sinon, c'est pas la peine de le faire.
Pour vous, participer à ce film, c'était un acte de militantisme?
Ah, tout à fait, oui. Tout à fait. Sans ça, je me serais fait payer.
Vous aviez des idéaux en commun avec Dominique, vous aviez parlé politique.
Un petit peu, oui. Oui, oui, oui. Oui, sans ça, j'aurais pas suivi. J'aurais pas suivi. Avant, on avait eu des discussions. Je me rappelle plus, me demandez pas la teneur exacte des discussions. Je me rappelle pas trop, mais je sais que tout ce qu'elle m'avait dit, ça m'avait donné envie de travailler avec elle. Voilà, de l'accompagner dans ce qu'elle faisait.
En écoutant, là, je retrouve cette manière tellement personnel, imagé, pleine de lui-même qu'il a de parler. En fait, c'est très touchant pour moi d'entendre tout ça. Vous avez très bien travaillé, je suis épatée, je dois dire. Bon, je me souviens que la préparation de ce film a duré très longtemps, peut-être un an et demi. Enfin, l'écriture, le fait de rencontrer les personnes, de les trouver, de les revoir, de les écouter, de retourner les voir... Je me souviens que j'étais vraiment dans le vide, en fait, quand j'écrivais ce film, parce qu'il y avait à peine une production, et que, justement, c'était vraiment une page blanche, quoi, pour moi. Je savais pas comment j'allais le faire. Et en plus, c'était au Val-Fouré, donc il fallait y aller, c'était loin, c'était un espace très défait. Donc j'étais là... au milieu du quartier, à chercher des personnes qui avaient vécu dans cette tour. On disait d'aller voir un tel, un tel, un tel, et puis ça faisait comme une espèce de chaîne. Donc c'était vraiment du vide. Voilà, du vide et des moments de rencontre. Des moments où en fait je choisissais les personnes qui seraient dans le film, mais eux aussi me choisissaient. Et je crois que c'est plutôt ça qui s'est passé avec Jean-Louis et avec les autres. Ceux qui finalement sont dans le film, c'est ceux avec qui j'ai trouvé un accord, en fait. C'est le diapason qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire que on était de la même trempe. On pouvait faire quelque chose ensemble. Et c'est plutôt là-dessus que je me suis basée pour faire le film que sur des choix de représentativité, de qui était dans la tour... comment représenter telle et telle partie de l'histoire. Bien sûr que ça comptait pour moi, mais c'était pas ça qui me guidait. Comme j'étais dans une sorte de... il y avait une production, mais il n'y avait pas de diffusion. Il y avait un projet qui était extrêmement libre, en fait. Sa pauvreté, c'était sa richesse. C'était... Bon, moi, qu'est-ce que je voulais faire? Enfin, ce dont je me souviens aujourd'hui, c'est... Je voulais raconter quelque chose de la vie, en fait, voilà. Je voulais faire saisir... sentir la vie qui s'était passée dans ces tours. J'avais eu une sorte de vision. Je m'étais baladée dans cette tour peut-être 2 ans avant parce que mon frère travaillait dans une compagnie de théâtre qui avait pris comme fond de scène, cette tour murée, pour un spectacle. Donc j'avais pu y accéder. J'avais monté comme ça dans les étages. C'était un spectacle d'Ahmed Madani, un metteur en scène qui était en résidence au Val-Fouré. J'avais grimpé les escaliers, j'avais poussé les portes. Et la vision de tous ces appartements empilés les uns sur les autres, vides, m'avait fait naître l'image de toutes ces vies qui s'étaient croisées dans ces tours. Et voilà, c'était ça le point de départ. Et donc il y avait à la fois du vide et du corps, on pourrait dire, dans le point de départ du film. Souvent dans les films, ce qui est là, dans cette espèce de première impulsion, c'est ce qu'on va retrouver à la fin. Mais le film, il ressemble pas à ce que je croyais que je pouvais faire. C'est-à-dire que j'avais beaucoup plus d'ambition, on pourrait dire, que finalement est le film. Mais son mouvement, c'est celui que j'ai éprouvé la première fois où je me suis baladée dans ces tours. Son mouvement profond, son cœur battant. C'est le vide, la destruction, mêlé avec la persistance de la vie, de la volonté d'exister des personnes, de leur charme particulier, de leur côté unique, de leur grain de leur voix, de la manière dont chacun pouvait parler, etc. C'est ça qui m'intéressait. Je voulais faire un film sur la vie, en fait. Je voulais qu'il y ait des personnes âgées, des vieux, des jeunes, des amoureux. Enfin, j'avais une vision extrêmement large, en fait, au départ. Et cette vision, elle était caractérisée par l'existence. Voilà, faire un film sur ce que c'est qu'être.
Et à la vision de ce film, je me suis beaucoup interrogée sur la notion de personnage en documentaire. Et j'ai remarqué que la personne filmée en documentaire n'a pas de nom et que c'est très difficile de la désigner. On parle de témoin, d'intervenant, de comédien. Comment on peut l'appeler, selon vous? Est-ce qu'on peut dire que c'est un personnage?
Dans la vie, là, maintenant, par exemple, quand on est en train de faire cet enregistrement, justement, on est à la fois une personne et un personnage. On pourrait dire que le personnage, il est comme c'est le masque qui, à la fois, nous protège et nous révèle. C'est ce qu'on se met en scène dans la vie. Là, par exemple, on met en scène cette interview, je me mets en scène. Et c'est ce qui me permet d'exister. Parce que si je vous donnais accès à la personne, c'est un chaos. Il me semble qu'on est tout le temps en train d'aller de l'un à l'autre, de la personne au personnage. Dans un film documentaire, on sent bien qu'il y a la personne qui est pleine de... Il y a toute une histoire, un trajet, un rapport avec vous, etc. Mais on ne peut y accéder qu'à travers le personnage qu'on va construire ensemble et la mise en scène qu'on lui propose et que il ou elle propose de faire avec vous. Donc, oui, je pense que ce sont toujours des personnages, mais on est toujours des personnages et des personnes mêlées.
Je vous ai entendu dire une fois, si on veut filmer la confiance, il faut la créer. Est-ce que c'est ça votre démarche documentaire ?
Moi, je suis aujourd'hui en train de préparer un film que je vais commencer à tourner lundi. Alors j'écoutais tous les compliments là qui m'étaient faits et puis votre question. Et justement, je pense que c'est dans le doute, le vide, la difficulté, le fait de ne pas y arriver, que éventuellement se crée la confiance. Et c'est pas dans justement cette phrase, je sais plus quand j'ai dû dire ça, pour créer la confiance, pour filmer la confiance, il faut la créer, mais justement, comment elle se crée? Moi, je me souviens de beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments. Il y avait des moments de joie dans ce travail de repérage, des moments d'inspiration, de bonheur, etc. Mais beaucoup de moments de détresse. On est face au vide, à la page blanche, à la difficulté de penser quelque chose. Et c'est dur, quoi. On n'est pas que dans la confiance pour la créer, justement. Je crois que ce qui m'émouvait, par exemple, dans les personnes qui sont dans le film, c'était leur fragilité, sûrement parce qu'elles faisaient écho à la mienne. Moi, qui j'étais à ce moment-là, je commençais le cinéma, j'étais absolument pas sûre de moi, de ce que je pouvais faire, de même la possibilité éventuellement de faire un film. Et peut-être que j'ai été attirée par des personnes qui étaient d'une manière ou d'une autre en écho avec cette
fragilité.
Cette manière d'être, cette matière, à la fois cette fragilité, puis en même temps cette confiance en fait qu'on a quand on est. Vous êtes jeune, Inès, et justement en vous regardant, je pense à ce que j'étais quand j'ai fait ce film en fait. C'est touchant parce que je me vois en vous regardant et je vois à la fois ce que je pouvais avoir de très volontaire. En même temps, voilà, je commençais, j'étais pleine de. Je ne mesurais pas ce que c'était que le cinéma en fait, peut-être. Au fond, il y a une figure à la base de ce film qui est un plan séquence de quelqu'un qui entre dans un lieu dont il fait le commentaire tout en étant suivi par une caméra qui est disposée à l'improvisation, qui joue avec la personne, qui est comme un musicien, qui joue avec un autre musicien. Et cette figure de base, je l'avais, d'ailleurs je l'avais inscrit dans le texte qu'on avait sorti au moment où on a fini le film, parce que c'était important pour moi de le dire en fait. J'avais vu ce plan séquence, je l'avais vu. C'est vrai qu'il était dans Shoah, le film de Claude Lanzmann, mais il m'avait vraiment touchée dans un film de Jean-Louis Comolli qui s'appelait Tabarka. Donc dans Tabarka, il y a un homme qui revient dans la maison de son enfance, qui entre, qui ouvre les volets et qui parle, qui raconte un souvenir. Et c'était Jacques Pamard, le cadreur avec qui j'ai travaillé, qui cadrait. Et quand il a été question de faire ce film-là, Chronique d'une banlieue ordinaire, j'avais dans l'esprit ce plan séquence avec un cadreur capable, au fond, d'inventer une mélodie qui soutienne le chanteur principal. Et quand on a travaillé avec Lina, c'était pour moi, à la fois bien sûr parce que ça nous aidait, parce qu'on avait très peu de moyens, mais aussi parce que c'était la possibilité de travailler avec ce cadreur-là, qui était capable de faire ce plan séquence-là. Donc j'ai construit le film en ayant à l'esprit cette figure comme une sorte de partition en fait qui après pouvait se proliférer, on pouvait jouer avec cette idée-là, etc. La tourner de plusieurs manières, quoi. Mais c'était cette figure-là de mise en scène qui m'intéressait.
Et il y a un des plans séquences qui se clôt par une demande de couper.
Oui.
Et c'est extrêmement fort. Et pourquoi cette demande d'un des personnages à couper la caméra peut être parfois si forte en documentaire ?
Parce que je crois qu'on est là, par exemple, il est submergé par une émotion qu'il n'avait pas prévu de montrer. Je comprends très bien qu'on demande de couper, qu'on ne veut pas se montrer à ce point. On ne veut pas se montrer à ce point. On ne veut pas montrer ça. Ça, je comprends vraiment.
Mais dans cette demande de couper, il participe un peu à la mise en scène de votre film, Jean-Louis Niveau, là.
Ah bah oui, mais moi je pense que mais d'ailleurs les acteurs de fiction aussi, mais alors vraiment pour les personnes qui participent à un film documentaire, c'est encore plus vrai. Je pense qu'il n'y a de film documentaire que si il y a un espace partagé, enfin que si l'espace de la mise en scène est partagé d'une manière consciente ou pas, entre la personne qui réalise le film et celle qui en est le protagoniste. Sinon, il n'y a pas de vie, en fait. Et ça n'est que parce que les personnes, enfin ça c'est ce que je pense, hein, ça n'est que parce que les personnes qu'on filme, mais Jean-Louis Niveau le dit très bien dans votre émission, que ce n'est que parce que les personnes qu'on filme sont d'accord pour y mettre du leur, en fait, c'est exactement le mot qu'on peut employer, que il y a un film, que sa vie, Et ce leurre, il ne peut exister que parce que je partage la mise en scène avec eux, que parce qu'ils ne sont pas des... Ils sont des égaux, si vous voulez. Voilà. Donc...
C'est une volonté d'inscrire quelque chose.
Non, c'est qu'ils ne peuvent exister qu'en tant que personne entière, que dans un dialogue. Sinon, ils sont des objets. Or, moi, je ne veux pas filmer un objet, je veux filmer une personne. Donc, comment filmer une personne, sinon en lui donnant la possibilité de créer un espace qui est son sens, enfin, qui est son apport, c'est un espace partagé. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et je pense en fait que c'est la même chose avec les acteurs, d'ailleurs, de fiction. Alors, c'est plus... Parfois, c'est plus simple, plus compliqué. Enfin, c'est tout un autre travail avec les acteurs. Mais c'est au fond la même chose. C'est-à-dire que c'est quand même... Qu'est-ce qui fait la mise en scène, concrètement? C'est le rapport entre une caméra qui filme et un corps qui se déplace dans l'espace, ou une voix qui se déplace dans l'espace, ou une pensée qui se déplace dans une personne si elle est immobile. C'est-à-dire que il y a quand même il y a quelque chose d'autre que vous dans une mise en scène. Il y a quelque chose d'autre que moi. Ben là, par exemple, dans notre entretien, on est trois. Vous, moi, la personne qui enregistre, qui réalise. Donc, c'est bien par le jeu entre ces trois personnes que quelque chose peut advenir. Si il y a une des trois personnes qui n'existe pas, qui n'a pas d'espace pour... inventer, exister, chanter, enfin on peut, voilà, c'est comme une improvisation à plusieurs voix. Il faut qu'il y ait de la liberté, de l'espace, et en même temps une espèce de partition commune. Moi, j'ai l'impression que le travail, en fait, ça consiste d'une manière ou d'une autre à fabriquer, parfois dans le conflit d'ailleurs, c'est pas que dans l'entente. Ça consiste à fabriquer cette espèce d'espace commun, de partition commune, d'histoire en commun d'ailleurs, de quelque chose qui va advenir en commun. C'est-à-dire pour ça, en écoutant votre émission, je réfléchissais à la difficulté que j'ai de conserver des liens. Ces personnes, je les ai énormément aimées. Je connais chaque mot de ce film, les inflexions de leur voix d'une façon profondément intime, vraiment. Et pourtant, ça m'est difficile de conserver des rapports avec eux. J'ai continué à les voir quelques temps après, à montrer le film, etc. Mais... Je crois que ce qui est difficile, c'est en fait que après coup, c'est très difficile de retrouver la même, enfin une intensité équivalente à celle qu'on a vécue ensemble pendant la création du film. C'est-à-dire que ce qu'il y avait entre nous, c'était de faire un film, et ça, on a été dans un état de création en fait, eux et moi. Très assez fort, et cet état de création nous a permis d'être un peu transparents les uns aux autres, que ça circule quoi entre nous. Et après on ne pouvait plus être que dans la commémoration de cet état de création particulier, et on ne pouvait pas. Donc c'était toujours un peu triste en fait quand on se revoyait, parce que dans le présent il n'y avait plus quelque chose d'aussi fort. C'était seulement c'était bien, on s'aime bien, etc., mais on n'avait pas une autre histoire en commun à inventer quoi. Le fait de partager l'espace du film avec la personne qui est filmée, ça implique qu'il y a une sorte de contrat tacite en fait entre nous, que on est d'accord. Au fond, on est d'accord, cela va sans dire. L'autre va donner de lui-même en tant que personne, et non pas en tant qu'un Il n'est pas là pour exercer un métier. Il est là pour être une personne à égalité avec vous. Et c'est de ça qu'il témoigne. C'est pour ça que c'est très, très, les films documentaires sont extraordinairement forts. C'est qu'on est face à une personne qui se tient debout, quoi. Voilà.
Et est-ce que vous avez déjà songé, est-ce que vous avez déjà posé la question du salaire ? Et quels enjeux il y a derrière la question du salaire ?
Oui, 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 je me suis très souvent posé la question du salaire. En fait, je pense que ce qui serait juste, c'est que les personnes qui sont dans les films documentaires soient des co-auteurs. Parce que je pense que ça n'est pas un travail, voilà. C'est... Parce que dans un travail, dans un contrat de travail, il y a une forme de subordination. C'est-à-dire que on n'est pas libre d'arrêter, tout ça est codifié et on est dans une vente de son, dans un échange, dans un commerce. Alors que dans un film documentaire, c'est beau, c'est fort si on est dans un rapport d'égalité, en fait, dans un rapport de liberté. Le lendemain, la personne qui est dans le film documentaire peut ne pas venir. Et c'est parce qu'il y a cette liberté qu'il y a de la vérité, de la vie entière. Mais en même temps, évidemment, il y a comme une gêne avec le fait que maintenant, les films documentaires peuvent être source de revenus très élevés, en fait. Si l'argent qu'on va gagner en fabriquant un film documentaire, c'est au fond équivalent d'une manière ou d'une autre avec... c'est difficile de parler de ça, je trouve plus mes mots. Comment dire ça ?
Non, c'est pour ça
que... C'est-à-dire que faire du profit avec la vie des autres, faire un profit élevé avec la vie des autres, ça pose un problème, voilà. Ça, on n'est pas à l'aise, en tout cas. On sent bien que ça ne va pas. Et l'autre, il faut qu'il soit extraordinairement généreux pour ne pas se sentir volé, quoi. Si j'avais gagné des millions avec ce film, je serais mal à l'aise. C'était pas du tout le cas, mais je serais mal à l'aise. Et eux aussi, en fait, ils seraient mal à l'aise. Ils le pensent, ils y penseraient. Donc, moi... Souvent, j'ai pensé que le bon moyen de résoudre ce problème, c'était de proposer des contrats de co-auteur. Voilà. Voilà.
Et vous avez vous-même vécu l'expérience de devenir personnage dans un de vos films, Demain et encore demain.
Oui, c'est vrai, oui.
Vous vous montrez avec sans pudeur dans ce film. Est-ce que d'être porté à l'écran ensuite devant des milliers de personnes, c'est une expérience difficile.
Non, mais d'abord, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses que je ne filmais pas. Et puis, je ne me souviens pas très bien. Je pense que c'est tout un tas de choses à raconter. C'est complètement... c'est l'état de création, en fait. Voilà. Pour moi, le souvenir de ce film « Demain et encore demain », le plus fort, c'est que y a une brèche, voilà, qui s'est ouverte, et j'ai pu, pendant presque un an, être dans un état de création. Et ça, c'était merveilleux de pouvoir cadrer, enfin, de pouvoir, c'est-à-dire d'être inspiré pour, d'avoir un truc qui fait que j'avais des idées, du désir, en fait, pour faire des plans avec la matière de ma vie de chaque jour. Et ça, c'est un grand bonheur. Alors, il y avait dans ce grand bonheur des moments de vide, de dépression, de difficulté de vivre, en fait, de faire consister quelque chose. Et puis, au moment où j'ai montré le film, il y a eu à la fois des moments très heureux parce qu'il était accueilli, en fait, il était aimé par des personnes, et donc j'étais touchée. Et puis, il y a eu quelques rejets, et comme le film et moi, on se confondait un peu, dans mon esprit en tout cas, forcément, ces rejets m'atteignaient beaucoup, mais mais c'était pas difficile en fait. J'ai jamais senti vraiment ça comme difficile. J'ai senti ça comme extraordinairement, comment dire, fécond en fait. Oui, c'est ça.
Et après ce film, vous n'avez plus fait de documentaire. Ça fait 10 ans que vous ne faites plus de documentaire, que vous faites seulement de la fiction.
Pourquoi ? Ben, je ne sais pas, en fait. J'ai pas vécu ça comme « je ne fais plus de documentaire ». Ça ne s'est pas fait comme ça. C'est... Je sais pas, D'abord, j'ai l'impression toujours de faire des films documentaires, en fait, parce que c'est pas du tout une pirouette, parce que j'ai l'impression de faire des films documentaires sur les acteurs, et que les acteurs sont des personnes, et que, voilà, je continue de filmer des personnes, en fait. C'est pas si loin.
Est-ce qu'il y a un enjeu éthique par rapport à la personne filmée ? Est-ce que... filmer des acteurs, ça représente pas la même chose que filmer des gens dans leur propre vie.
Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que quand le film Une poste à la Courneuve, bon, maintenant je ne pense plus ça, mais quand je l'ai eu fini, j'ai pensé que j'avais peut-être projeté sur comme ça la place publique des personnes que je les avais exposées sans qu'ils mesurent tout à fait, eux, qui étaient d'accord, ce que ça voulait dire d'être exposé, que peut-être je les avais pas assez protégés. Oui, j'ai pensé ça, c'est vrai. Et donc, j'ai fait le film autobiographique à ce moment-là, pour pouvoir aller plus loin avec moi-même, et parce que ça m'inspirait aussi. Si j'avais moi-même et mes proches comme matériaux, c'était plus... ça heurte si vite le cinéma, c'est tellement vite fait de faire un faux mouvement, un geste qui fait que l'autre va être froissé, qu'on peut être tenté de travailler plutôt avec des acteurs qui sont en principe aguerris à la difficulté que ça représente, oui. Il y a sûrement ça, oui. En même temps, quand j'entends ce que vous avez fait écouter, là, je me dis que c'est vraiment... J'adore filmer ça. J'adore filmer cette espèce de jaillissement... comment dire ça Et en fait, c'est épais qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire que ce qui est merveilleux, quand on filme quelqu'un dans la vie, c'est qu'il vous apporte à la fois son présent, son passé et son avenir dans l'instant, dans le moment, et que c'est comme une espèce de tissu extraordinairement soyeux, bon, qu'on peut manier. Ça, c'est le tissu de la vie, de notre vie, de la vie des personnes et puis de la nôtre. Il est sublime à toucher.
C'était Dominique Cabrera et ses personnages, passeurs de réel. Avec Dominique Cabrera, Marilyn Canto, Jean-Louis Niveau et Jacques Pamard. Un grand merci à Gisèle et Jean-Louis Niveau, Viviane Achilly, Mathieu et Léna, ainsi qu'à Hélène Louvard, Xavier Griette et Suzanne Rosenberg. Dominique Cabrera est actuellement en tournage d'un film noir intitulé « Quand la ville mord ». Les documentaires Chroniques d'une banlieue ordinaire, Réjeanne dans la tour, Une poste à la Courneuve, sont uniquement disponibles chez Iskra, société de production et de diffusion indépendante. Attachée de production, Christine Gage et Laure-Hélène Plancher, prise de son, François Rivalan, mixage, Michel Kreis, réalisation, Guillaume Baldi. Une émission d'Inès Léraud. En 2016, c'est Corniche Kennedy qui focalise l'attention de Dominique Cabrera
pour l'acte poétique du plongeon qui engage le corps. Ce documentaire est disponible en podcast sur le site de France Culture. Et demain, ce sera Mariana Otero qui nous racontera son cinéma. Il est temps d'écouter la chronique de Céline Duchesnay.